Mercredi, vous le savez, était révélé le rapport spécial du GIEC sur les océans et les zones de glace. Un rapport qui souligne l'urgence à mettre en place des mesures prioritaires, ambitieuses et coordonnées autour du développement durable pour faire face aux changements sans précédent que subissent les océans et la cryosphère, donc les glaces. Nous consacrons aujourd'hui une seconde émission à l'impact de ces changements et aux moyens concrets pour s'adapter collectivement. Je reçois dans un instant l'océanographe Éric Guilliardi, auquel vous pouvez poser dès maintenant toutes vos questions. 01 45 24 7000, franceinter.fr et le mot-clé l'attaque. Camille Cronier, bonjour.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
De retour en studio avec dans votre besace, Camille, une dernière carte postale monégasque.
Oui, parce que pendant que les scientifiques allaient être alertés sur les océans mercredi, il y avait le Monaco Yacht Show qui commençait, mais il paraît qu'ils se mettent au green, même les yachts.
Dans la deuxième demi-heure, vos solutions pour la planète avec aujourd'hui Emeric, un auditeur de Bidart au Pays Basque qui veut fonder une application pour repérer les déchets en mer. Le feuilleton de la semaine avec le dernier épisode de notre série de reportages consacré à l'écologie dans les banlieues. Puis enfin, notre invité découverte est le photographe chinois Hu Guoyong qui présente en ce moment à Paris une série de photos spectaculaires sur les cimetières de vélos dans son pays. Voilà pour le sommaire de cette Terre au carré réalisée par Valérie Ayestaray avec à la technique Elisabeth Collet et Louis Audelet.
Mathieu Vidard, la Terre au carré. France Inter.
Bonjour Éric Guilliardi.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes océanographe et climatologue au laboratoire L'Océan de l'Institut Pierre Simon Laplace. Quelles sont les mesures à prendre pour s'adapter au changement climatique? C'est donc le thème de cette deuxième émission, donc à deux jours de ce rapport du GIEC qui a été donc livré mercredi depuis Monaco sur les océans et les glaces. On a évoqué donc les grandes lignes avec notre invité mercredi Laurent Bob. Quel est, de votre point de vue, l'aspect le plus important finalement à retenir de ce texte sur l'avenir des océans et des glaces? Il y a une idée importante pour vous, vraiment, à mettre en avant?
Alors, pour moi, ce rapport est un des premiers à fournir des outils d'aide à la décision pour les sociétés.
Ouais.
C'est vraiment un rapport qui, bon, part du constat physique,
ouais,
dont on a déjà parlé, on reparlera, mais qui va évaluer les conséquences en termes de vulnérabilité pour nos populations, pour les écosystèmes, et voir quelles actions on peut mettre en place pour limiter les impacts.
Donc là, au-delà de la synthèse finalement de tous les travaux scientifiques, qui est vraiment le cœur aussi de ce rapport, maintenant on essaie de donner vraiment des clés très concrètes pour essayer d'envisager l'avenir.
Voilà, exactement. C'est vraiment, pour agir, il faut comprendre les causes, donc savoir d'où vient le réchauffement, d'où viennent les impacts. Ensuite, il faut évaluer les options disponibles pour pouvoir lutter contre ces impacts. Et tout ça, en fait, renforce notre capacité d'adaptation. C'est vraiment, puisqu'il y a une part inéluctable de changement, et en particulier quand on parle de l'océan et de la glace. Donc, l'objet de ce rapport, est-ce que nous, scientifiques, on souhaite vraiment, c'est que la société, dans toute sa diversité, s'empare de ces résultats, les traduise localement, qu'ils se réunissent, qu'ils voient qu'est-ce que ça veut dire pour moi, pour mes activités, pour nous, pour nos activités, pour traduire ça en action.
Est-ce que finalement, à la lecture de ce rapport du GIEC, on n'est pas en train de redessiner une carte du monde là, pour les décennies à venir?
Alors,
quand on regarde la carte des côtes, par exemple, aujourd'hui, est-ce qu'elle va devenir dans le futur?
Effectivement, il y a, donc là vous faites allusion au niveau de la mer qui change, mais ça c'est un aspect physique visible, mais il y a aussi beaucoup d'autres aspects où notre monde est en train de changer et va changer, va continuer à changer, que ça soit dans les océans, dans les paysages de glaciers qui disparaissent. Donc il y a une part de changement inéluctable, mais aujourd'hui, et ça c'est un message fort de ce rapport, c'est suivant les choix qu'on va faire dans les années qui viennent, on peut arriver à gérer l'inévitable, il y a une part qui est inévitable, mais aussi empêcher les pires impacts.
Donc ça fait partie des différents scénarios qui sont imaginés,
voilà,
justement,
voilà,
dans ce rapport.
Exactement.
Est-ce qu'il va falloir déplacer beaucoup de populations aussi dans le futur, inéluctablement?
C'est difficile de répondre à cette question. Et la question, encore, comme je l'ai dit tout à l'heure, est vraiment locale. Alors, il y a des estimations du nombre de millions de personnes qui seraient déplacées en cas de montée du niveau de la mer, de ressources en eau qui changent. Mais il faut bien voir que c'est dans le monde d'aujourd'hui. L'homme a prouvé sa capacité d'adaptation. Et en fait, tout l'enjeu de ce rapport, c'est de savoir localement quelles sont les décisions qui vont être prises, bonnes, mauvaises, quels risques on est prêt à accepter. Et donc, En gros, cette question, savoir combien de gens sont déplacés, ça va dépendre des décisions qui sont prises.
Ouais. Alors, ce dont il faut être conscient également, c'est qu'il y a déjà beaucoup de populations à travers le monde qui ont dû déjà adapter leurs déplacements et leurs activités de chasse ou de pêche, par exemple, à ces changements environnementaux qui sont déjà une réalité dans le quotidien de plein de gens. Hein.
Voilà, alors par exemple, en Arctique, hein, il y a 4 millions de personnes qui vivent dans ces régions-là. Et le fait que la glace de mer, qui est pour eux à la fois l'endroit où l'on va pêcher, l'endroit qui permet la transportation, les transports, hein, de se transporter, a changé. 40%, en 40 ans, 40% de la couverture de glace en été a diminué. L'autre aspect qu'on voit moins forcément, c'est l'épaisseur de la glace.
Oui. Hein,
l'épaisseur, elle est passée en moyenne de 3,5 mètres dans les années 70, à aujourd'hui 1,5, et on a de moins en moins de glace qu'on appelle pluriannuelle.
Oui. Hein.
Et donc, les deux scénarios dont on parle, celui où on agit de façon radicale maintenant, hein, l'objectif de l'accord de Paris, où on limite le réchauffement à 2 degrés, et celui où, en gros, on continue comme aujourd'hui, on arrive à réchauffement. La différence entre les deux pour ces populations-là, c'est que en Arctique, à l'horizon de 2050, dans le scénario dont le pire dont on
donc
parle,
ça,
il n'y a plus de glace.
Demain, ouais.
Il n'y a plus de glace, c'est dans 30 ans.
Ouais.
C'est-à-dire c'est les jeunes qui sont là aujourd'hui, qui seront adultes demain, pour eux, il n'y aura plus de glace en été. Donc
ouais.
Une modification fondamentale qui a des conséquences, pas uniquement pour les autochtones.
Ouais. Alors, du point de vue justement des écosystèmes marins, vous qui êtes océanographe, qu'est-ce que ça peut donner? Est-ce qu'on peut établir là aussi un scénario probable sur les poissons, par exemple, et les quantités disponibles?
Alors, ce qu'on sait déjà aujourd'hui, sans même se projeter dans le futur, on sait déjà aujourd'hui que l'acidification de l'océan, qui, je vous rappelle que l'océan absorbe 25% du CO2 qu'on émet. C'est-à-dire, sans l'océan, on serait
pas... Donc un rôle très important. Hein.
On serait pas à un degré de réchauffement, mais bien plus. Donc ce rôle, il est fondamental. Alors d'un côté, c'est bien pour nous, mais de l'autre, en rendant l'océan plus chaud et plus acide, ça va modifier toute la chaîne alimentaire. Donc les poissons, ils ont besoin d'une certaine température, d'une certaine de nourriture, et cette nourriture se déplace. Aujourd'hui, on observe que se déplace vers les pôles en moyenne à 5 km par an.
Ouais. Ce qui est beaucoup finalement, hein. Ça bouleverse aussi les équilibres quand même, les déplacements.
Ça fait 50 km en 10 ans, et donc les zones de pêche, déjà aujourd'hui, on observe, ne sont plus les mêmes. Alors, tout de suite, il faut faire attention au fait qu'il n'y a pas un seul facteur qui va affecter la pêche, hein, puisqu'on en parle. Beaucoup de ces impacts sont multifactoriels, comme on dit. C'est-à-dire, certes, le changement climatique est là. Aujourd'hui, dans beaucoup de cas, pour la pêche ou d'autres aspects, c'est pas le premier facteur. Ça va être d'autres facteurs, la surpêche ou voilà, ou de la mauvaise gestion des stocks, vont avoir aujourd'hui un rôle plus important. Mais ce que montre ce rapport, c'est que plus le temps va passer, plus le changement climatique va venir renforcer ces impacts et les rendre pires.
Éric Gilliardi, on se retrouve dans un instant. Des messages pour vous, des questions des auditeurs de la Terre au Carré au standard 01 45 24 7000 autour donc de ce rapport spécial du GIEC révélé mercredi.
France Inter. La Terre au Carré.
Et justement, Camille Cronier, vous étiez à Monaco au moment précisément où les membres du GIEC discutaient pour résumer ce rapport aux décideurs. Vous êtes donc de retour et vous nous emmenez en bateau aujourd'hui. C'est ça?
Oui, parce que mercredi, donc à 11h pile, au moment, vous le disiez, où le GIEC rendait son rapport public sur les océans, s'ouvrait donc exactement à la même heure le Monaco Yacht Show. C'est la musique de la vidéo officielle. Hein, avec, attention, 125 méga et super yachts, 600 explosants et 30 000 visiteurs. Je le fais bien, non?
Oui, parfait.
Alors, quel profil ils ont, les clients, juste pour être sûr?
On s'adresse à une clientèle qui est dans le rang des milliardaires.
Voilà, comme ça, au moins, c'est clair.
Ouais.
Alors, ce monsieur s'appelle Antoine Larrick. Il s'occupe de la vente d'Aurore Boréale, un yacht hollandais de 63 mètres. Yacht d'occasion, déjà aménagé, donc visite.
Là, c'est un mur qui était commandé à un artiste, donc c'est des feuilles d'or. Tous les planchers sont en chêne, tous les tapis sont en soie. Il y a un piano à bord, Steinway, qui peut jouer tout seul ou avec un pianiste.
Il y a un ascenseur.
L'ascenseur va donc du pont inférieur invité jusqu'au sun deck où on trouve la salle de gym et la jacuzzi.
La porte des toilettes est en plaqué or. Même la chasse d'eau, pardon.
Oui, oui.
Voilà, la chasse d'eau tout en plaqué or parce que c'est pour éviter l'oxydation de la robinetterie.
Ben
il y a une vraie raison. Je vous passe le sauna ou la baignoire faite dans une seule pièce de marbre. Le tout climatisé, bien sûr, et diesel. La question arrive donc forcément. Ça pollue un yacht ou pas?
Ça pollue. Il y a des moteurs. Vous connaissez des moteurs qui polluent pas, vous?
Alors, mais il y a un mais.
Par rapport à l'industrie du shipping, quand vous regardez le nombre de navires de commerce qui circulent autour de la planète à un moment donné, Le yachting est loin de causer le moindre mal.
Alors l'organisation du Monaco Yacht Show donne même des chiffres sur les quelques 5000 yachts en activité aujourd'hui. Seulement 300 heures en mer par an, naviguant rarement à la vitesse maximale, et il ne représenterait que 0,3% des émissions de CO2 des navires.
Il n'y a probablement pas plus écologique d'un point de vue construction, utilisation, qu'un yacht. Ça pollue mais 100 fois moins qu'un jet privé.
Que ne prennent jamais les jets privés, évidemment, les propriétaires de yachts, c'est bien connu. Mais poursuivons quand même avec ce professionnel du secteur. Vous, l'environnement, du coup, c'est une question aussi qui vous touche.
Ah, bien sûr. Mais parce qu'on a notre eau, l'eau, c'est notre business. Hein. Si l'eau n'est pas crystal clear, si elle n'est pas propre, on ne vend plus de bateaux.
Et alors, le rapport du GIEC sur les océans qui est sorti aujourd'hui, vous en pensez quoi?
Ah non, j'ai pas entendu. Aujourd'hui, je sais pas. Non, aujourd'hui, j'ai pas entendu. Non. Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, je vendais des bateaux. Donc, j'étais pas. Malheureusement, j'ai pas écouté. Mais voilà.
Vous connaissez le GIEC?
Non. C'est quoi?
C'est le grand groupe d'experts sur le climat.
Ah pardon, oui pardon, oui pardon, oui pardon, oui. On n'a pas pris rendez-vous avec ça, j'ai pas d'information dessus.
Alors juste à côté, le capitaine d'un yacht veut prouver, lui venir un peu à la rescousse et prouver sa conscience écologique.
Nous on est complètement supprimés tous les bouteilles en plastique. À bord. Maintenant, on boit que de l'eau filtrée.
Voilà, un petit geste. Un peu plus loin, me voici avec un autre capitaine, Enrico Orselli, à bord du Bintador.
Là, c'est chez moi. Ça, c'est ma cabine, le poste de pilotage. Il y a un grand écran, là. Ça, c'est la gestion du système hybride.
Et oui, ce yacht de 50 mètres peut fonctionner à l'électrique, en plus du diesel.
C'est écologique, bien évidemment. C'est le confort des guests qui sont à bord, parce que les bruits sont très réduits. Mais surtout, si vous voulez, on fait tourner beaucoup moins le moteur du bateau, les générateurs du bateau. Donc ça permet aussi d'économiser, si vous voulez, dans les années, des frais de maintenance.
Voilà, donc la motivation économique, un peu plus forte que la motivation écologique. D'ailleurs, que vois-je juste à l'avant du bateau hybride? Ah, il y a un hélicoptère, voilà. On peut aller voir?
Si.
C'est impressionnant.
Alors, c'est un garage. D'accord. Pour l'hélicoptère.
Voilà, un garage pour l'hélico. Donc, je sais pas, on pourrait appeler ça peut-être la décompensation carbone, pas. En tout cas, le 100% vert, on n'y est pas. Et certains ont eu l'honnêteté de le dire, comme cette Italienne. Écoutez ce qu'elle répond quand je lui demande s'il y a du greenwashing dans le milieu. Absolument. Il faut faire attention quand on parle de vert. Par exemple, les panneaux solaires. Eh ben, on peut rien faire avec. Voilà, une question d'image, en fait, avant tout. D'ailleurs, les critères des clients, les voilà, c'est un broker, c'est-à-dire celui qui fait l'intermédiaire, qui détaille.
Premier critère, ce serait budget, ensuite taille, ensuite capacité d'inviter. La capacité d'avoir beaucoup de jouets, si vous voulez, à bord, tels que des wakeboards ou des skis, ou même parfois des sous-marins.
Eh oui, comme dans James Bond, des sous-marins à bord des yachts, et l'écologie donc n'est pas prioritaire.
Non, parce que malheureusement, dans le yachting, on parle de plaisir et de façon majoritaire à effectivement le confort à bord.
Voilà, cela dit, la tendance apparaît quand même, hein, c'est dans les esprits, et certains propriétaires prêtent même parfois leur bateau pour des missions, par exemple, alors peut-être davantage pour leur réputation ou avoir bonne conscience, mais c'est déjà ça, et cette pression verte pousse aussi la technologie à évoluer. Allez, la dernière question à laquelle tous ne répondent pas non plus. Et combien ça coûte un yacht comme ça?
Presque 80 millions d'euros, vous avez fait un étude d'affaires fantastique, et vous pouvez partir avec votre famille après le boat show, et vous commencez votre croisière autour du monde.
Bon, j'avoue, Mathieu, j'ai failli renoncer à tous mes principes, mais je suis revenue. Vous voyez, je suis là. Ouais. Bon, c'est aussi parce que j'ai pas du tout l'argent.
Ouais, mais il y en avait un d'occasion quand même, apparemment.
Oui, yacht, 80 millions d'euros,
c'est celui
mais
qui
je
vaut
les ai
80
pas
millions,
sur mon compte en banque.
Camille Passauvert et revient de Monaco, c'est donc à réécouter sur franceinter.fr.
Éric Gilliardi, le contraste, il est un peu ballot, entre guillemets, le rapport sur les océans au même moment que le yacht show. Est-ce que c'est compatible? Est-ce que ça fait pas un peu de tâche?
Bah, ça montre le grand écart auquel on est tous un peu confrontés, le chemin qui reste à faire. Pour beaucoup. Ceci dit, alors bon, ces personnes qui disaient c'est écolo, etc., faut ramener ça à l'usage par personne. Là, on parle d'inégalité criante puisqu'il s'agit de milliardaires. Mais vous savez, ça me choque ni moins ni plus que les publicités pour des compagnies aériennes sur de la radio publique, par exemple.
Oh là là, dites donc, hein.
C'est pas nous qui gérons.
Nous, on y est pour rien.
Nous, on y est pour rien.
Vous m'avez demandé mon avis.
D'ailleurs,
voilà.
C'est pas nous qui choisissons les pubs qui entourent l'émission.
Bim
non plus. Et boum, dans les dents.
Allez, 01 45 24 7000.
La Terre au carré, le magazine de l'environnement. Mathieu Vidard. sur France Inter.
Voilà, Éric Guillardy, notre invité. C'est vrai que vous soulevez un vrai problème, c'est que de temps en temps, on se retrouve avec des panneaux publicitaires
de voitures, de véhicules,
pour les gros véhicules dans une émission sur l'environnement. C'est vrai que ça nous fait mal. Alors, les questions des auditeurs au standard et puis également sur franceinter.fr. D'abord, il y a Marjorie qui pousse un coup de gueule autour de l'inaction climatique et dit: à titre individuel, je fais de mon mieux pour éviter d'ajouter ma pierre au réchauffement climatique, mais passer son temps à entendre des messages alarmistes qui, de toute façon, n'atteignent probablement pas 90% des gens et qui surtout ne vont pas modifier les décisions politiques qui changeraient la donne, c'est proche de la torture mentale. Je n'en peux plus, dit-elle. Je souhaitais vous donner ce message en premier. Est-ce qu'il faudrait quasiment une gestion psychologique du problème, autour du problème du réchauffement climatique aujourd'hui?
Alors, c'est une bonne question. D'abord, moi, la première chose que je veux dire, c'est que les rapports du GIEC ne sont pas alarmistes. C'est de la façon dont elles sont retranscrites qui peut l'être. C'est très différent. Il n'y a marqué nulle part dans un rapport du GIEC, nous sommes alarmistes.
Oui. Enfin, sauf que les résultats en soi sont alarmistes quand même.
Ça dépend comment on veut s'en emparer. Et là, l'idée de ces rapports, c'est vraiment de dire, bon, nous sommes face à un problème, très clairement. Mais il y a de nombreuses mesures et solutions qu'on peut mettre en œuvre. En voici certaines listes. Et donc, moi, j'ai envie de dire, c'est de la gestion de risque. Alors, effectivement, face à un risque qu'on ne sent pas, qu'on ne voit pas, qu'on ne maîtrise pas, ça peut être angoissant. Donc, d'où l'importance, et encore je le répète, de l'appropriation de ces résultats par tout le monde.
Oui.
Parce que quand on s'approprie un problème, qu'on le comprend, qu'on en voit les contours, qu'on dessine des futurs possibles, des scénarios, eh ben, il fait moins peur.
Oui.
On s'en empare et on le résout.
Oui, enfin, sauf que là, vous avez une vision très optimiste. Et c'est très bien, d'ailleurs. Je suis ravi d'avoir un scientifique optimiste sur la question. Sauf que j'ai eu certains de vos confrères à ce même micro qui étaient vraiment, mais désespérés à la lecture même, d'ailleurs, des résultats et de la synthèse de ces rapports.
Vous savez, les scientifiques sont aussi des êtres humains des citoyens qui ont des réactions diverses et variées. Et moi, ce que j'ai envie de dire ici, encore une fois, c'est que ce travail que nous faisons, nous, scientifiques, les motivations peuvent être diverses. Mais le principe même du GIEC, c'est qu'il n'y a pas de militantisme ou dans un sens ou dans l'autre. Ce n'est pas à la fois rien ou la fin du monde. Et notre rôle, c'est vraiment de fournir l'expertise scientifique pour la décision publique. Alors, c'est pas facile, parce que c'est facile de tomber dans un des deux écueils dont je parlais. Les médias s'en emparent et les sociétés souvent un peu dans tous les sens, avec un côté émotif. Mais vraiment, l'idée de ce rapport, c'est d'être loin des fake news, loin de l'émotion négative qui fige l'action.
Ouais, mais enfin, quand on voit au fil des rapports l'élévation du niveau de la mer qui s'élève, qui augmente, comme les températures également, je veux dire, les résultats, on peut pas dire que c'est positif. C'est de plus en plus catastrophique quand même, faut être clair.
Alors, moi, j'utilise pas le mot catastrophique, c'est des risques. C'est-à-dire, chaque demi-degré de plus, nous prenons des risques.
Bon, on vous invitera souvent, quand on n'aura pas le moral, on invitera Éric Guillardy, ça va nous faire du bien. Dominique est en ligne au standard. Bonjour Dominique.
Oui, bonjour.
Bienvenue à vous.
Bonjour à tout le monde. Oui, écoutez, je vais être synthétique. J'ai vu un documentaire il y a quelques mois. De mémoire, des Islandais avaient mis au point un process qui consistait à absorber le CO2 dans l'atmosphère, le transformer en minerai pour le stocker dans des zones intraterrestres. Je voulais savoir si vous étiez au courant et ce que vous en pensiez éventuellement.
Alors, c'est le piégeage du CO2, voilà. Éric Guillardy. Hein.
Ouais.
Alors, effectivement, ces techniques, d'ailleurs, sont évaluées, alors, pas dans ce dernier rapport, mais dans le rapport 1,5 degré, la limitation de réchauffement à 1,5 degré qui était sortie l'an dernier.
Ouais.
Donc, le scénario à 2 degrés dont on parle utilise à la fin du siècle des techniques de captation de carbone, dont l'exemple que vous venez de donner, il y en a d'autres. Hein. Mais ce qui est vraiment important de comprendre, c'est que ce ne sont pas aujourd'hui des techniques utilisables pour les 10, 20, 30 ans qui viennent, qui est vraiment la période charnière. C'est-à-dire qu'il faut qu'on limite fortement. C'est-à-dire plus on va attendre, plus ça sera difficile de rester sous 2 degrés, donc plus on prendra de risques, etc. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de solution technologique, de bouton magique qu'on va appuyer et développer pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre.
Dommage, parce que c'est prometteur, c'est un exemple intéressant quand même.
Donc aujourd'hui, ce que disent ces rapports, ce qui est efficace, c'est de réduire nos émissions.
Alors, on a une question de Philippe sur l'application franceinter.fr. La matière grise et l'argent dépensé par le GIEC a dressé chaque année des bilans de plus en plus catastrophiques, c'est ce qu'il dit lui en tout cas. Ne serait-il pas mieux employé à faire des recherches pour résoudre les problèmes?
Alors,
plutôt que de les pointer du doigt.
Déjà, la matière grise et le coût du GIEC sont minimes par rapport à oui, non, mais c'est du temps de perte. Je dirais, quand on contribue au GIEC, il y a notre salaire qui est payé par l'État.
Ouais,
donc c'est de l'argent public.
On est moins disponible sur ces recherches.
Voilà,
justement.
Voilà. Mais c'est minime par rapport à l'effort de recherche qui est fait.
Pour les solutions. vous voulez dire ?
Pour tout, dont les solutions. Donc c'est pas l'un ou l'autre. Et je vais même aller plus loin, c'est parce qu'il y a des rapports du GIEC qui font une synthèse, qui montrent peut-être des endroits où il y a moins de recherche, qu'on va pouvoir en faire plus dans certains domaines et qui vont aider à avancer.
Éric Guilherdi, alors, on a bien compris, hein, réduire nos émissions de gaz à effet de serre. S'il y a une chose qu'il faut bien comprendre aujourd'hui, c'est ça. Hein, puisqu'on voilà. parle justement de s'adapter, ben c'est s'adapter d'abord en réduisant nos émissions de gaz à effet de serre. Et puis ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire ? Au niveau marin, il y a des choses à exploiter quand même aussi, j'imagine.
Alors, donc, il y a ces deux aspects, hein, de ce qu'on va appeler la limitation des émissions de gaz à effet de serre, où là, on sait ce qu'il faut faire, c'est pas facile, mais voilà. Ensuite, il y a s'adapter à des changements en cours. Au niveau de l'océan, par exemple, ça veut la montée du niveau de la mer. Donc, je vous rappelle que le niveau moyen de la mer est monté de 15 cm depuis 1900. Que notre scénario sobre nous emmènera à 30 à 60 cm en plus. Et le scénario où on ne fait pas d'action, jusqu'à 1 mètre ou plus à la fin du siècle. Donc, face à ça, il y a plusieurs façons de réagir. D'abord, évidemment, de protéger les côtes ou les endroits peu élevés. Alors, ça peut être des barrages. On voit les Pays-Bas gèrent ce risque depuis très longtemps, hein, puisque la moitié de leur territoire est sous le niveau de la mer. Donc ça, c'est de la technologie. Il y a ensuite, par exemple, de replanter des mangroves dans certaines régions.
C'est quoi la mangrove, très rapidement ? Alors, mangrove, c'est un écosystème très particulier.
Voilà, la mangrove, c'est un arbre, un arbuste, on va dire, qui est planté dans l'eau de mer, donc qui a ses racines dans la vase sous-marine et une partie aérienne. Et ces mangroves sont absolument essentielles pour réduire l'impact des événements extrêmes, par exemple lors des tempêtes. Donc ça, c'est une deuxième technique, d'utiliser un peu ce qu'on appelle les solutions basées sur la nature. Et la troisième, ça peut être un repli stratégique, de dire ce morceau de terre, on l'abandonne, on recule nos constructions, nos installations.
Il y a des exemples en France, par exemple, l'exemple de cet immeuble à Soulac-sur-Mer, par exemple, qui est en train de s'effondrer ou menacé de s'effondrer. On abandonne cette zone.
Voilà.
Et ça, on va être amené à le faire de plus en plus souvent.
Oui, c'est d'adaptation. Mais encore une fois, les choix, ils sont locaux et ils demandent à chacun de s'approprier le problème pour son environnement.
Parce qu'il y a des contre-exemples. Hein, Monaco qui est en train, par exemple, de construire sur la mer pour un grand éco-quartier en 2025, pour ne dire que ça.
C'est un bon exemple d'analyse de coût-bénéfice de décision.
Et ce sera un éco-quartier en plus.
Hein. Un éco-quartier apparemment. Ouais.
Est-ce que les régions françaises justement sont en train vraiment de prendre en compte ces modifications à venir et sont déjà dans le concret des choses pour s'adapter alors à ce qui va arriver ?
Tout à fait. Il y a un très bon exemple qui est la région Nouvelle-Aquitaine qui a fait donc un rapport à Climaterra où 400 experts ont pendant plusieurs années réfléchi à quelle était leur vulnérabilité, le niveau de risque acceptable et une liste de mesures dont le politique peut s'emparer avec une adhésion large.
Exemple, une mesure par exemple
Par exemple, ça va être d'abandonner certains vignobles qui sont menacés par la montée du niveau de la mer dans l'estuaire de la Gironde.
Voilà, ça c'est des choses très concrètes hein, qui nous attendent évidemment pour un avenir assez proche et qui émanent précisément aussi de ces travaux du GIEC dont on a largement parlé cette semaine. Et puis aujourd'hui, journée de marche encore pour le climat. Ces actions des jeunes, ces grèves, vous en pensez quoi vous en tant que scientifique?
Alors écoutez, bon, moi je n'ai pas d'avis à donner sur l'opportunité.
Alors, en tant que citoyen.
Mais en tant que citoyen, voilà. Moi je trouve que c'est une excellente chose parce qu'elles nous ont par exemple aidé à faire en sorte que dans les programmes français, il y ait plus d'enseignement sur le climat.
Et ce sera à partir de l'année prochaine.
À partir de la rentrée 2020.
30 heures en plus autour du climat. Merci Éric Guilherdi. Juste après les infos, vos solutions pour la planète, on ira dans le Pays Basque retrouver un auditeur qui veut mettre en place une application justement pour gérer les déchets en mer. Ça devrait vous intéresser.
France Inter. La Terre au carré.
Au sommaire de cette deuxième demi-heure, le dernier reportage de la série d'Antoine Lee consacré à l'écologie et dans les banlieues, pendant que vous étiez, vous, à Monaco, Camille, et puis l'invité découverte
son truc.
Est un photographe chinois qui présente en ce moment à Paris une série de photos époustouflantes sur les cimetières à vélo en Chine. Et c'est très impressionnant, on en parlera avec lui donc tout à l'heure. Mais pour le moment, vos solutions pour la planète avec vous, Aymeric. Bonjour.
Bonjour.
Bonjour, bonjour à tous.
Bienvenue, vous êtes le fondateur d'une application qui s'appelle I Clean My Sea, traduction
Je nettoie ma mer.
Voilà, bravo, ma mer.
Mon océan plutôt. Parce que voilà.
Une application pour repérer les déchets en mer. Et vous organisez, Éric, donc en ce moment un crowdfunding jusqu'au 29 septembre pour recueillir des fonds pour développer donc la version opérationnelle de l'opération. Alors racontez-nous, on était avec un océanographe tout à l'heure dans la première partie de l'émission, je crois que c'est votre métier à la base. Hein.
Exactement, je salue Monsieur Guilherdi au passage. Je suis océanographe de formation et alors j'ai créé la start-up I Clean My Sea, qui propose des solutions concrètes, efficaces, pour lutter contre l'invasion des plastiques en mer. Mm-hmm. Alors, la première chose, c'est que I Clean My Sea invite toutes les personnes qui transitent sur le littoral, que ce soit des promeneurs, des plaisanciers, des surfeurs, tous les usagers de la mer finalement, à nous signaler des déchets flottants lorsqu'ils les croisent. Le geste est extrêmement simple, il suffit de sortir son téléphone portable, de prendre une photo géolocalisée grâce à l'application smartphone iClean My Sea, et nous récupérons cette photo, sa géolocalisation, et à partir de là, puisqu'il ne s'agit pas juste de prendre une photo, on exploite cette donnée en prévoyant la trajectoire de ces déchets grâce au modèle hydrodynamique dont j'ai l'expertise, grâce à ma formation d'océanographe. Donc on transmet l'ensemble de ces informations à des navires spécialisés dans la collecte des déchets en mer. Nous sommes déjà en possession de ce type de navire. Et voilà, l'idée, c'est vraiment de proposer une prise en charge intégrée des plastiques en mer, depuis la détection jusqu'à la valorisation, en passant par le volet collecte, qui est fondamental.
Du coup, Aymeric, vous vous adressez à des gens qui sont en mer, parce que pour voir des déchets qui flottent dans l'eau, faut être, j'imagine, déjà dans l'eau pour prendre des photos, si on ne peut pas voir ça de la plage.
Alors si, parfaitement, on peut voir ça de la plage. On peut voir régulièrement des zones d'accumulation, des zones avec, par exemple, de la mousse, de l'écume, qui sont en règle générale des zones de convergence hydrodynamique, donc des zones où les plastiques vont s'accumuler. Mmh. Et même si on les voit de loin, on peut, grâce à l'application smartphone, alors on a une version web de démonstration qui est disponible sur notre site internet icleanmysea.com, vous pouvez déplacer la position à laquelle vous estimez que le déchet se situe, et donc à partir de la plage, ou d'une digue ou d'une falaise, indiquer que vous avez aperçu une zone d'accumulation. Et il n'est pas forcément nécessaire d'être en mer pour pouvoir participer à la lutte contre l'invasion des plastiques en mer avec iClean My Sea.
Alors, Aymeric, donc on a compris, hein, il y a plusieurs aspects à votre projet. D'abord, repérer effectivement les plastiques et puis ensuite les collecter pour les recycler ensuite. C'est-à-dire vraiment en faire un cercle vertueux.
Exactement. Alors, on se positionne dans l'économie circulaire. L'idée est vraiment de créer un maximum de valeur. Puisque l'opération d'aller chercher les plastiques en mer coûte extrêmement cher, et même si nos partenaires financiers principaux sont les collectivités littorales, on veut trouver d'autres moyens, d'autres ressources financières pour mener notre tâche à bien.
Oui.
Donc l'idée, c'est de valoriser tous les plastiques qui peuvent être valorisables. Tous ne le seront pas, malheureusement, mais tous ceux qui le seront, on va créer des outils, enfin, des objets en plastique d'usage pérenne, qui sont estampillés iClean My Sea et qui, parce qu'ils portent les valeurs de notre projet de l'économie sociale et solidaire, auront une valeur marchande supérieure à celle du plastique.
Mais alors, Aymeric, j'imagine le nombre de gens qui sont sur la plage et qui vont voir un sac plastique par-ci par-là. Est-ce qu'ils vont devoir dégainer leur application pour vous le dire? Est-ce que vous allez sortir en mer pour aller récupérer le sac plastique ou vous allez considérer que ça n'est pas assez intéressant pour vous?
Alors d'abord, dans l'immédiat, on ne va pas être en capacité de mettre des bateaux absolument partout. Par contre, il y a des zones particulièrement intéressantes sur lesquelles il faut se positionner, ce sont les estuaires, puisqu'on sait qu'il y a 80% des déchets qui transitent par les rivières, et qu'en plus de ça, l'hydrodynamique, encore une fois, crée des zones d'accumulation assez récurrentes, notamment à la limite entre l'eau douce qui vient de la rivière et l'eau de mer dans laquelle elle se déferle. Donc, en priorité, on mettra des bateaux sur ces espaces-là, puisque c'est là où se situe la majorité des déchets qui arrivent en mer. Et puis après, on va mettre en place tout un système d'intelligence artificielle pour qualifier la photo qui a été prise et faire en sorte d'évaluer le bien fondé ou pas de déplacer un bateau sur la détection en question.
Alors, si on veut tester l'application de démonstration et participer à votre initiative, on peut aller sur votre site icleanmysea.com. Et puis, pour ceux qui souhaitent également vous aider financièrement, puisqu'on le disait, vous êtes en pleine opération de crowdfunding pendant encore 2 jours. Donc, il suffit d'aller sur le site de la Terre au Carré pour pouvoir se renseigner et vous aider. Pour ceux qui le souhaitent, bonne journée, bon week-end au Pays Basque, puisque vous êtes à Bidart, Aymeric.
Exact.
Et merci beaucoup d'être passé par la Terre au Carré. Il est 14h09. Bonjour Antoine Lee. Bonjour Mathieu, dernier épisode de votre série sur l'écologie en banlieue. Aujourd'hui, vous nous parlez des jardins familiaux que l'on appelait autrefois les jardins ouvriers. Hein.
C'est vrai que lorsqu'on parle des banlieues et des cités, on pense bien sûr au béton, à ces grandes barres d'immeubles. Mais en cherchant bien, on peut trouver de véritables trésors de verdure au pied de ces cités. Des parcelles de terre entretenues par des particuliers. Vous l'avez dit, on appelle ça les jardins familiaux ou jardins ouvriers. Je me suis rendu à Champigny-sur-Marne, dans l'un des quartiers de cette banlieue est de Paris. 9 familles se partagent un terrain de 1200 mètres carrés. Parmi eux, Luc Pelletier. Depuis 17 ans, il y passe tout son temps libre. Je l'ai retrouvé sur sa parcelle de terre, en plein jardinage. Un râteau à la main.
Qu'est-ce que vous faites là, Luc ?
Je suis en train de préparer un petit morceau, une petite plate-bande pour repiquer des choux et des salades à l'automne.
Vous, Luc, vous habitez où ?
J'habite juste à 50 mètres à vol d'oiseau du jardin, là, juste dans un HLM.
Et chez vous, alors, vous cultivez quoi alors sur votre parcelle ?
Ben là, vous avez un pied de rhubarbe sous les yeux. Ici, vous avez des choux frisés, ils sont mélangés à des blettes de toutes les couleurs. Il y a un peu de tout parce que on a en fait un jardin, ça fait rêver. Quand on a un jardin, on essaye d'y cultiver les choses dont on a rêvé.
Vous dites le jardin, c'est le rêve, et en même temps, le rêve peut côtoyer la tronçonneuse, la scie sauteuse du voisin de l'immeuble à côté. C'est un peu le paradoxe de la ville et du jardin ici. Hein.
La ville, c'est notre cadre de vie. On va pas dire c'est horrible la ville. On est venu habiter là parce qu'il y a des avantages à habiter là et il y en a beaucoup. C'est pas une chose négative. Le jardin dans la ville, c'est la ville en mieux. Ici, vous avez un joli piment d'Espelette, là, très mignon.
Un piment d'Espelette à Champigny-sur-Marne.
Voilà, exactement.
On peut le goûter comme ça, oui, ça se goûte cru ou pas?
Oui, bien sûr. Ça va vous brûler la gueule. Hein.
Bon, on va pas tenter alors.
Non, on va pas tenter.
Qu'est-ce que ça vous apporte d'avoir un jardin au milieu de ces ensembles?
D'abord, c'est du point de vue écologique, c'est une présence de plantes. Et puis pour le plaisir, hein, tout simplement, on n'est pas dans un truc utilitaire où on va au boulot, où on revient du supermarché. C'est un endroit où on peut prendre son temps, on peut s'arrêter. Et quand je viens ici, je sens ma respiration, mon cœur qui bat sur un rythme différent, je suis bien. Les gens qui passent là, ils s'arrêtent pour regarder, ça leur fait plaisir, on voit un sourire sur leur visage. C'est important. Il y en a qui viennent parler, qui demandent si on peut visiter, si on peut venir regarder, et qui parlent, etc. C'est important. C'est du lien social.
Ça va ? Bonjour, ça va et toi ?
Oui, très bien, merci. Je suis venu voir Juan pour lui remplir des papiers.
Ah, c'est pour des papiers, je croyais que c'était pour des tomates.
Oui, aussi, on a gardé quelques-unes. Moi, j'en profite
T'as
un peu.
T'as vu la taille de ces tomates ? Elles sont gigantesques.
Ouais. J'en ai encore, ça s'appelle des corps de bœuf.
Ah, des corps de bœuf, ouais. C'est vous, Juan ?
Oui.
Juan.
Et vous n'êtes pas jardinière ici. Alors, et pourquoi vous êtes là ? Par voisinage
suis...
par quoi ?
Oui, absolument, parce que je suis des amis avec eux depuis des années.
Et c'est la femme de Juan,
Thérèse,
qui a lancé donc ce jardin familial.
Ce terrain-là, en fait, il était abandonné. Il n'y avait que les chats qui venaient là. Et son épouse avait demandé au maire de notre commune s'il pouvait faire quelque chose de ce morceau de terrain. Et le maire avait dit à l'époque, bah, écoute, on va peut-être faire un petit jardin pour les gens, pour qu'ils puissent s'asseoir. Et en fait... Sa épouse a dit « Ah non, surtout pas un truc, parce que tous les mômes qui se droguent dans le coin, ils vont être obligés de venir là, alors on n'en veut pas. On va faire un jardin. » Et ça a été acquis comme ça.
Mais vous, pourquoi vous cultivez pas, vous ?
Mais moi, pourquoi j'ai plus l'âge de cultiver ? Maintenant, je suis trop vieille. Arrêtez.
Vous aimez la courgette crue ?
Ah ben, j'adore, moi.
C'est très bon, la courgette crue.
Ah ben, hyper bon. Mais est-ce qu'elle est bio, d'ailleurs, ou vous mettez un petit peu de pesticides ?
Non, rien du tout, rien du tout.
Et le fait comme ça que vous cultiviez vos propres légumes et vos fruits, il n'y a pas plus court comme circuit.
Non.
C'est bon pour la planète, ça.
Voilà, ça c'est bon pour la planète. Pas de transport, hein, je les mets dans un sac et je vais chez moi à pied. J'aimerais bien que ça se développe et qu'il y ait des oasis comme ça, un réseau d'oasis, qu'on puisse aller de l'un à l'autre pour circuler dans la vie.
C'est joli cette image d'oasis au milieu du béton.
Ouais, ça me plaît bien.
Voilà Antoine, comme tous les jours, on peut retrouver les photos de ce reportage sur la page Facebook de La Terre au Carré.
Ouais, ça sera l'occasion de voir Luc Pelletier, ses piments d'Espelette made in Champigny-sur-Marne.
Ouais.
Et pour terminer, il faut savoir qu'il y a beaucoup de demandes pour peu d'offres. Il faut parfois patienter des années avant de pouvoir obtenir une oasis de verdure au pied de son immeuble.
Voilà, donc c'est terminé pour aujourd'hui pour cette série de reportages en banlieue. On peut réécouter l'intégralité de vos sujets, Antoine Lee, sur la page de l'émission. À très bientôt.
À très bientôt Mathieu.
Allez, dans un instant, je reçois le photographe chinois Hu Guyong pour parler de ses photos hallucinantes de cimetières de vélos, justement, en Chine.
Des émotions qui montent trop vite, les sensations retombent trop vite, passer du riz au lundi si vite. Hey, hey, les sentiments passés sans suite, le parfum qui t'enivre trop vite, passer du riz au lundi si vite. Sur tes joues, tu ne sais pas pourquoi tu pleures. T'as l'impression qu'on t'ignore. Quitter la fête avant la fin, claquer la porte avec fracas. On ne s'inquiétera pas pour toi. Tu fais ça deux fois sur trois. Tes émotions qui montent trop vite. Les sensations retombent trop vite, passer du riz au limbe si vite. Hey, hey, les sentiments passés sans suite, le parfum qui t'enivre trop vite, passer du riz au limbe si vite. Hey, hey, tes émotions qui montent trop vite, les sensations retombent trop vite, passer du riz au limbe si vite. Hey, hey, les sentiments passés sans suite, le parfum qui t'enivre trop vite, passer du riz au limbe si vite. Tu vas abîmer ton cœur à trop vivre plus fort que tout. Hypersensible et sauvage dans ta tête comme dans une cage. T'as tellement besoin qu'on t'aime que t'oublies de t'aimer toi-même. T'aimer toi-même. Tes émotions qui montent trop vite, les sensations retombent trop vite. Passer du riz aux larmes si vite. Hey, hey, les sentiments glacés sans suite, le parfum qui t'enivre trop vite. Passer du riz aux larmes si vite. Hey, hey, tes émotions qui montent trop vite, les sensations retombent trop vite. Passer du riz aux larmes si vite. Hey, hey, les sentiments glacés sans suite, le parfum qui t'enivre trop vite. Passer du riz aux larmes si vite.
Trop vite, c'était la voix d'Isia sur France Inter.
La Terre au Carré. Mathieu Vidard.
Hu Guyong, bonjour.
Ah, ça m'est cher.
Vous êtes photographe chinois. On peut voir en ce moment pour la première fois en France votre travail qui est exposé en gare des Invalides à Paris pour une durée de 2 ans. Alors il s'agit de 22 photos incroyables sur des cimetières de vélos en Chine que vous avez pu réaliser avec des drones que vous avez conçus vous-même. Vous allez nous expliquer ça dans un instant. Racontez-nous d'abord comment vous vous êtes intéressé à ces cimetières de vélos.
En fait, j'habite à Shenzhen, c'est une ville de construction il y a environ 40 ans. Et après l'ouverture de la Chine, et c'est où le moment-là, j'ai commencé à habiter à Shenzhen. En 2012, c'est le conseil de vélo à partager, ça apparaît dans notre vie. J'étais juste comme tous les autres Chinois, j'étais pour utiliser le vélo à partager parce que ça réglait le problème de l'environnement et j'étais content.
Mais juste
quelques mois après, j'ai trouvé qu'il y a beaucoup de vélos à partager avec toutes les couleurs parce que ça appartient des différentes entreprises et j'ai trouvé partout. C'est le conflit d'un cycle vicieux en Chine. C'est parce que toutes les entreprises vont financer pour le même secteur.
Il
n'y avait pas de contrôle sur ce secteur à l'époque-là. En étant un photographe, j'ai commencé à réfléchir à qu'est-ce que je peux faire. Donc j'ai pris mon caméra pour enregistrer ce phénomène. Un jour, quand je regarde la télévision, j'ai trouvé cette nouvelle que le gouvernement a jeté tous les vélos ensemble dans un endroit. Donc, j'ai trouvé cet endroit, j'ai pris le photo avec un drone et cela m'a impacté. Donc j'ai commencé à penser, déjà, on a trouvé un cimetière à vélo à Shenzhen. Est-ce que ça existe des autres cimetières à vélo dans les autres villes? Donc j'ai commencé à prendre les photos.
Donc vous avez utilisé des drones que vous avez vous-même conçus pour aller filmer ces cimetières donc de vélos en Chine. Pour quelle raison est-ce que vous avez choisi des drones?
Oui, parce que si on utilise un vue normal comme les autres, c'est pas assez. Il n'y a pas assez d'impact. Donc, de plus, au début, j'ai déjà commencé à prendre les photos en utilisant le drone il y a longtemps. Donc, je pense que c'est une bonne idée pour prendre avec. Pendant l'époque, là, en Chine, il y a environ 70 entreprises uniquement pour le vélo à partager. On a ramassé tous les vélos avec des différentes couleurs ensemble. Donc, si on utilise le drone pour prendre les photos, on va voir ça, c'est un art de terre.
Donc, c'est jeté par terre. Ouais. Est-ce que vous avez eu des autorisations pour utiliser ces drones et filmer ces cimetières de vélos ou est-ce que vous l'avez fait de façon plutôt clandestine?
Non.
Il a pris discrètement.
Oui. Et c'était un risque pour vous de le faire? Et pourquoi ça posait un problème de filmer ou de faire des photos de ces cimetières?
En fait, comme un photographe, il a travaillé pour le gouvernement aussi. Donc, il a demandé à quelqu'un qui travaillait pour le gouvernement pour savoir les endroits où on a jeté les vélos, mais on ne voulait pas lui dire.
Oui. Donc ça donne ces photos absolument extraordinaires hein, de ces champs à perte de vue, donc de vélos effectivement de toutes les couleurs. Donc ça ressemble, vu du ciel comme ça, à des mosaïques. Et donc ce problème de gestion des vélos cassés donc en Chine devient une œuvre d'art avec vos photos.
En fait, comme ce qu'il a dit, c'est de dur parce que pour les deux côtés, c'est-à-dire le gouvernement et les entreprises de vélos à partager, ils ne veulent pas qu'ils prennent les photos parce que c'est une image négative. Donc, il a fait ses efforts pour trouver déjà, pour trouver le lieu et pour prendre les photos.
En
fait, heureusement, c'était l'année dernière, en mois de juillet, on a publié sur Internet, c'est surtout sur les réseaux sociaux que c'était plus accepté par les gens. C'était le top topic sur les réseaux sociaux le même jour-là.
En Chine?
Oui, en Chine.
Donc
les réseaux sociaux plus formels en Chine, ils ont réagi très vite. En fait, c'était un peu génial parce que c'était plutôt critique par rapport à l'État, par rapport aux entreprises, mais c'est quand même c'est sorti et c'est accepté par l'État.
Donc finalement, vous ne risquez rien aujourd'hui pour avoir pris ces photos clandestinement? On ne vous embête pas en Chine pour avoir montré ces cimetières à vélo?
Oui,
Oui, pour l'instant, il n'y a pas de risque pour lui et ça a changé un petit peu le système de contrôle pour les vélos à partager en Chine.
Alors justement, c'est la question que je voulais vous poser. Est-ce qu'aujourd'hui, grâce à vos photos, votre pays et puis les entreprises de vélos ont trouvé des solutions pour recycler tous ces vélos qui, pour l'instant, effectivement, s'étalent partout et sur des kilomètres carrés quasiment, hein ?
Parce qu'au début, on n'a pas eu l'expérience pour la gestion de l'entreprise dans le secteur. Maintenant, on a réglé pour construire les barrières. Par exemple, maintenant, pour toutes les villes qui veulent utiliser les vélos à partager, il faut régler un volume. Combien de vélos on va mettre dedans ? Pour les supplémentaires, ce sera pour les entreprises qui doivent les recycler. Pendant période là, en Chine, il y a environ 27 millions dans toute la Chine en circulation, mais maintenant il y a plus que 2 700 000. Dans toute la Chine.
Donc il y a moins de vélos aujourd'hui
ça a baissé.
En libre service. Est-ce que ce sont vos photos, finalement, Hu Guoyo, qui ont permis aussi de prendre en charge la question de ces vélos inutilisables ?
En fait, la publication est sur Internet, ça impacte directement parce que c'est une image par rapport au gouvernement, c'est négatif plutôt.
Mais maintenant, il y a une question, c'est que beaucoup de ces vélos de partage, en fait,
En fait, pour les vélos déjà cassés, on a déjà jeté, ou on dit supplémentaire, on ne peut pas le réutiliser dans le marché. Donc, on va recycler les vélos cassés. Donc c'est un gaspillage et ça abîme l'environnement.
Justement, est-ce que l'écologie, c'est un sujet qui intéresse les Chinois aujourd'hui ?
Normalement,
on ne fait pas attention aux résultats qu'on a
amenés.
Mais maintenant, quand on a vu les photos, on a commencé à penser. Parce que pour les utilisateurs, on n'a pas
un fait
direct sur le gaspillage de vélos. Mais maintenant, on a.
Ici, en France et dans le monde, on entend souvent parler des problèmes de la qualité de l'air dans les grandes villes chinoises. Est-ce que ça, c'est un problème, justement, qui intéresse et qui mobilise la population pour essayer d'améliorer la qualité de l'air ?
Le développement de l'économie en Chine, il y a des entreprises, il y a des fondateurs qui ne font pas attention à l'environnement. C'est vrai. Pour le gouvernement, il manque encore le pouvoir de faire l'équilibre entre l'environnement et faire pousser l'économie.
Hu Guoyo, merci beaucoup en tout cas. Votre travail donc est exposé pour la première fois en France, en gare des Invalides à Paris. On a 2 ans pour voir ces photos absolument époustouflantes de ces décharges de vélos à ciel ouvert. 22 photos donc qui sont présentées en ce moment. Merci beaucoup à vous d'être venu dans la Terre au Carré.
Merci.
Voilà, c'est terminé pour cette semaine. On peut même se dire au revoir en mandarin, Camille.
Oui,
vous parlez de mandarin.
On peut dire ça, Etienne. Ah, c'est voilà. Au revoir. Ben à lundi, par contre, je ne sais pas le dire.
Bon week-end, moi je vais vous le dire en franglais. Merci à tous d'avoir suivi La Terre au Carré. Merci à toute l'équipe pour la préparation des émissions. On se retrouve lundi à 13h30.